VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du lundi 14 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, visite d'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à Beni, dans le Nord Kivu.
En Mauritanie, des chefs religieux musulmans appellent à l'exécution d'un blogueur condamné à mort initialement pour apostasie.
En France, commémoration hier des attaques meurtrières du 13 novembre 2015, perpétrées par des djihadistes dans la région parisienne.
Ici aux États-Unis, première interview télévisée du président élu Donald Trump et nomination de deux membres clés de sa prochaine administration.
En Irak, la ville de Nimrod a été reprise au groupe État islamique. Elle est célèbre pour ses ruines d'une ancienne cité assyrienne d'il y a 3000 ans.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
République démocratique du Congo, après Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée à Beni ce dimanche, au Nord Kivu. Le chef de la délégation, l'ambassadeur angolais Ismaël Abraham Gaspar, a déclaré qu'elle était venue pour voir comment elle pourrait aider la MONUSCO et la RDC à mieux protéger les populations civiles dans cette région meurtrie de l'est du Congo. Compte rendu de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
À leur arrivée à Beni, à plus de 300 km au nord de Goma, les 15 membres de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, accompagnés du gouverneur du Nord et du Sud Kivu, ont eu des discussions avec les autorités civiles et militaires sur la situation sécuritaire dans cette région de l'Est de la RDC. La société civile de Beni veut voir du concret sur la situation sécuritaire après cette visite, mais cela ne l'a pas empêché de remettre à la délégation un mémo dans lequel ils exigent une enquête internationale et le renforcement du mandat de la force et de la MONUSCO pour plus d'engagement sur le terrain, nous a fait savoir Gilbert Kambale, qui est le coordonnateur de cette structure. Avant de quitter la ville de Beni, la délégation conduite par l'ambassadeur angolais Ismaël Gaspar promet de faire attendre toutes ses recommandations à New York. Beni est l'un des territoires de la RDC où la situation sécuritaire est encore volatile du fait de l'activisme des groupes armés, notamment des ADF, pointés du doigt dans les massacres de plus de 700 civils selon l'ONU. Rappelons que les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont arrivés en RDC depuis le vendredi 11 novembre dernier. Ils ont eu des échanges à Kinshasa avec plusieurs personnalités et acteurs politiques dont le président Joseph Kabila sur la situation politique actuelle au pays sans faire des déclarations fracassantes. Charlie Kasereka depuis la ville de Goma pour VOA Afrique.
Toujours en RDC, 5 personnes ont été tuées hier dans une attaque visant le véhicule d'un ministre provincial du Sud Kivu. Selon une porte-parole officielle, l'attaque a eu lieu à Pemba, village situé à environ 160 km dans le territoire de Fizi, au sud de Bukavu, capitale de la province.
En Mauritanie, des chefs religieux musulmans ont appelé hier à l'application de la sentence contre un blogueur condamné à mort, initialement pour apostasie, fait ensuite requalifié en mécréance. C'est demain que la Cour suprême doit examiner le dossier de repentir, selon la défense. Le condamné à mort, Cheikh Oul Mohamed Ould Mketir, un musulman âgé d'une trentaine d'années, est détenu depuis le 2 janvier 2014 pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire envers le prophète de l'islam.
En Gambie, un photojournaliste indépendant est détenu depuis jeudi par les services secrets de son pays. Il lui reproche d'avoir pris des photos dites volées de partisans du président Yahya Jammé. Selon ses proches cités par l'AFP, Aladji Manka, également producteur de documentaires, n'a pas été vu par sa famille depuis jeudi après-midi.
En Somalie, les présidents de deux régions autoproclamées semi-autonomes du Nord se sont engagés à respecter un cessez-le-feu violé à plusieurs reprises, et ce après la mort d'au moins 45 personnes dans de récents combats entre leurs forces armées. Cet engagement a été annoncé hier par la mission de l'ONU en Somalie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La France a marqué dans la sobriété et la dignité le premier anniversaire des attaques djihadistes du 13 novembre 2015 qui ont endeuillé la région parisienne, faisant 130 morts et plus de 400 blessés. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
Si Donald Trump a rassuré l'aile conservatrice traditionnelle du Parti républicain en confiant le poste de secrétaire général de la présidence à Reince Priebus, celui qui a dirigé le parti jusqu'à la victoire du 8 novembre, le prochain locataire du bureau Oval a surpris les habitués.
Pour commémorer ce triste anniversaire, des cérémonies ont eu lieu à travers la capitale française.
Armel antisémite Cunier, Thomas Ayad, Guillaume Barrault de Chef.
Devant la salle de concert du Bataclan, le président François Hollande a assisté, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la lecture des noms des 90 personnes tuées dans ce local par les djihadistes. Une scène répétée en chacun des 6 endroits visés par les assaillants du 13 novembre 2015. Gilles, un témoin de l'horreur de l'an dernier, se souvient.
C'est difficile de répondre là-dessus. Si, je pense que des événements comme ça, ça soude un peu la nation.
Marie-Giard Chevalier, une Parisienne, pense que la France est devenue une nation peu à peu conquise par la peur.
Je me rends compte vraiment que les gens ont peur aujourd'hui. C'est vraiment ça qui a pu ressortir. Je me rappelle notamment d'une soirée où j'étais dans un restaurant, il y avait des pétards dehors et il y a plusieurs de mes amis qui se sont enfuis dans les toilettes et du coup ça m'a pas mal marqué. Je me suis dit en fait les gens ont peur.
Alors que se déroulaient les cérémonies, le Premier ministre français Manuel Valls confiait à la BBC que l'état d'urgence en place depuis une année serait probablement prolongé.
Ici aux États-Unis, le président élu Donald Trump a adressé hier des signaux contrastés sur les sujets de société. Il a réaffirmé ses convictions anti-avortement et pro-armes à feu, mais il a dit accepter le mariage homosexuel. C'était lors de sa première interview télévisée depuis sa victoire mardi dernier. Dans cet entretien avec la chaîne CBS, Donald Trump a cherché à calmer les tensions qui traversent le pays depuis son élection.
N'ayez pas peur, nous allons rétablir notre pays, a-t-il lancé aux milliers de manifestants qui le défient quotidiennement dans plusieurs villes des États-Unis. M. Trump a également condamné des actes de violence et de harcèlement contre des minorités, musulmans, noirs ou hispaniques, qui, selon l'opposition démocrate et des associations, se seraient multipliés depuis son élection.
Le milliardaire a annoncé qu'il renonçait à sa rémunération de président, soit 400 000 dollars par an. Il devrait donc percevoir un dollar symbolique, comme l'exige la loi, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, alors que les manifestants anti-Trump se poursuivent à travers le pays, le président élu a saisi la une en annonçant dimanche soir la nomination de 2 membres importants de son équipe présidentielle, son secrétaire général de la Maison-Blanche et son stratège en chef. Le point avec Jean-Roger Bion.
Si Donald Trump a rassuré l'aile conservatrice traditionnelle du Parti républicain en confiant le poste de secrétaire général de la présidence à Reince Priebus, celui qui a dirigé le parti jusqu'à la victoire du 8 novembre, le prochain locataire du bureau Oval a surpris les habitués de la scène politique à Washington en choisissant comme stratège en chef et proche conseiller un homme accusé, entre autres, de lien avec le mouvement de la suprématie blanche. Steve Bannon, un ancien officier de la marine de guerre des États-Unis, employé de Goldman Sachs et responsable du réseau de nouvelles en ligne Breitbart, un organe de droite avait rejoint la campagne de M. Trump en août dernier. Le choix de Bannon a suscité de vives réactions dans la presse et dans les milieux politiques, mais le chef de file des Républicains à la Chambre basse, Paul Ryan, a déclaré à la chaîne CNN, et nous citons, « Je n'ai jamais rencontré le gars, je ne connais pas Steve Bannon, donc je n'ai pas de soucis, je fais confiance au jugement de Donald, je pense qu'il choisira celui qui servira le mieux ». D'autres postes clés de la prochaine administration devraient être pourvus dans les prochains jours, selon des proches de M. Trump. Parmi les noms les plus cités, on retient celui de l'ex-maire de New York, Rudy Giuliani, soit pour le portefeuille de la justice, soit pour le département de la sécurité intérieure.
En Irak, l'armée a annoncé hier avoir repris au groupe État islamique la ville de Nimrod, célèbre pour ses ruines d'une ancienne cité assyrienne d'il y a 3000 ans.
Un séisme de magnitude 6,2 a ébranlé à nouveau la Nouvelle-Zélande lundi, quelques heures après le puissant tremblement de terre survenu dimanche matin qui a fait au moins 2 morts et conduit des milliers d'habitants à fuir vers des zones élevées.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco.
Le Niger a convenu avec le FMI d'un nouveau programme économique et financier de moyen terme 2017-2020 qui pourrait être appuyé par un nouvel accord au titre de la facilité élargie de crédit. Les résultats macroéconomiques du Niger sont restés satisfaisants en 2016, en dépit des chocs sécuritaires et humanitaires, des prix de matières premières défavorables et de la réduction des échanges avec les pays voisins. L'élargissement de l'assiette fiscale, l'amélioration de la gestion budgétaire et le contrôle des dépenses publiques sont les principales recommandations du FMI. La croissance du PIB devrait augmenter de 3,5% en 2015 à 4,5% en 2016 et l'inflation serait contenue à 1,6% en 2016. Au Nigeria, le groupe Dangote annonce un investissement de plus de 20 milliards de dollars dans plusieurs projets économiques à l'horizon 2020 afin d'impacter les économies nigériennes et africaines et de promouvoir la sécurité alimentaire. Les secteurs d'activité concernés sont le ciment, le sucre, le sel, le riz, ainsi que la construction d'un complexe de pétrochimie, d'engrais, de raffinerie, d'usines de gaz et de transformation de tomates. Le groupe Dangote veut également construire une nouvelle usine de raffinage de pétrole brut dotée d'une capacité de traitement de 650 000 barils par jour pour satisfaire la demande actuelle de produits pétroliers au Nigeria et même pour les exporter. En prélude à une entrée sur le Ghana Stock Exchange, la Banque de développement agricole du Ghana envisage de relancer cette semaine son offre publique de vente afin de lever 150 millions de dollars qui lui permettront d'augmenter son objectif de financement de 50%. Cette opération reste toutefois soumise à une approbation du gouvernement ghanéen qui possède la banque à hauteur de 52%. Le gouvernement conservera son emprise sur la banque, alors que la Banque du Ghana procédera à une cession du total de sa part d'action, soit 48%. Ces actions seront vendues à raison d'un prix unitaire de 0,66 $.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Football avec la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, Russie 2018. Dans la zone Afrique, deux matchs ont eu lieu hier.
Oui, et notons la performance de la RD Congo qui est allée battre la Guinée à Conakry 2-1 grâce à Nikes Kebano et Yannick Bolassier. Une victoire obtenue dans la douleur. Les Congolais sont en tête avec 6 points, même nombre de points que la Tunisie, vainqueur de la Libye 1-0. Et puis dans le groupe E, l'Égypte a logiquement dominé le Ghana 2-0. Une belle performance également puisque les Pharaons sont seuls en tête dans ce groupe avec 6 points. Arrive ensuite l'Ouganda 4 points qui a battu le Congo Brazza 1-0.
Le Nigeria est bien leader du groupe B.
Deux matchs, deux victoires. Et quel match pour les Nigériens face à l'Algérie? Sereinement, les Super Eagles ont maîtrisé les ardeurs algériennes. Le score 3-1 avec un doublé de Victor Moses. Dans l'autre rencontre du groupe, les Lions camerounais se sont montrés moins indomptables que prévu à domicile devant la Zambie. Match nul, un partout au classement. Le Nigeria tranquillement en tête avec 6 points donc. C'est déjà 4 de plus que le Cameroun et 5 sur le duo Zambie-Algérie.
Dans le groupe C, la Côte d'Ivoire s'est montrée solide face au Maroc.
Effectivement, les deux équipes se sont quittées dos à dos, score 0-0. La Côte d'Ivoire qui a d'ailleurs perdu hier Laurent Pokou, grand nom du football africain, ancien recordman du nombre de buts marqués en Coupe d'Afrique des Nations. Statu quo dans ce groupe puisque le Mali et le Gabon ont également fait jeu égal. Beaucoup de déceptions forcément. Au classement, Côte d'Ivoire devant avec 4 points, suivi Gabon et Maroc avec 2 points. Le Mali ferme la marche avec 0 point.
On enchaîne Élisée avec le groupe D. Déception pour le Sénégal, battu en Afrique du Sud.
Oui, la révolte s'est fait attendre côté sénégalais malgré un but de Cheick Ndoye. C'est bien les Bafana Bafana qui sortent vainqueurs de la rencontre 2-1. L'autre belle performance du groupe est venue du Cap-Vert avec la victoire du Burkina Faso 2-0. Un groupe D serré donc avec Burkina Faso et Afrique du Sud premier avec 4 points. Le Sénégal juste derrière à une longueur. Le Cap-Vert reste dernier avec 0 au compteur. Et puis Idrissa, c'est la saison régulière en NBA. Avec vous, les résultats de la nuit.
Charlotte 93, Cleveland 100, Orlando 119, Oklahoma City 117. LA Lakers 99, Minnesota 125, Phoenix 120, Golden State Warriors 133, Denver 105, Portland 112.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Communal 2016 au Mali. Le scrutin est prévu pour le 20 novembre prochain, mais la campagne électorale en cours n'est pas marquée par une grande mobilisation de la population, la gestion actuelle du pays faisant que les Maliens ne sont pas particulièrement intéressés par ces élections locales, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Quelques affiches par-ci, par-là. Pas de grands meetings, encore moins de grandes démonstrations de force dans les rues de Bamako. La campagne pour l'élection communale n'est pas très sentie en ses débuts. Les candidats ont opté pour le porte-en-porte pour aller à la rencontre des électeurs indécis. Sidi Amadou Yattara, candidat sur la liste CODEM à Kati.
Je ne suis pas un homme politique. Je suis d'abord un acteur, un citoyen. J'œuvre avec les jeunes. C'est des jeunes même du quartier qui nous ont dit, bon, il est important que des jeunes soient entendus au niveau du conseil communal. Ils m'ont proposé comme ça. Bon, vu qu'on n'avait pas de parti, on devait aller au début sous forme de mouvement. Finalement, nous avons été approchés par la CODEM et nous avons accepté d'aller sur la liste. Et je suis deuxième de la liste CODEM pour la commune de Kati.
En commune 4 du district de Bamako, le maire sortant Sirimon Bakidi n'est pas candidat à sa propre succession. Dans cette commune, il y a des tenants de la politique malienne, des anciens chefs d'État, anciens premiers ministres et des ministres qui soutiennent tous leur formation politique en compétition face à une jeunesse déterminée. Boubacar Berthe, tête de liste du parti SNID.
Depuis plus de 25 ans, nos parents sont à la tâche de la gestion de ce pays. Dès lors, rien n'a changé. Et maintenant, étant jeune, on ne peut pas bien faire à ma place plus que moi-même. L'appui de toute la jeunesse de la commune 4, les associations, les organisations féminines et autres m'ont choisi vraiment pour que je me lance dans cette course. Au fait, moi, quand même, mes actions vont surtout baser sur la promotion de la jeunesse. Il est temps pour la jeunesse de prendre son destin en main.
Dans la commune 3 du district de Bamako, c'est les jeunes Moriba Dabo Di Maurice qui conduit la liste d'alliance Djamafar. Il s'est fait des soucis quant à la participation des populations au scrutin du 20 novembre prochain.
Nous-mêmes, on se pose la question, est-ce que les gens vont sortir massivement pour aller voter le 20 novembre? Parce que c'est un problème. Ça, les politiques ont déçu. La collectivité se sent délaissée. C'est pourquoi nous, nous avons décidé d'être sur cette liste pour défendre non seulement l'intérêt de la collectivité, construire la collectivité au lieu de nous construire. En fait, nous, nous voulons juste apporter notre pierre à l'édifice.
Certains citoyens se réjouissent du respect de la nouvelle loi électorale par les partis en compétition, comme Korotumu Karabenta.
Je vois que les militants de partis politiques respectent la loi qui a été prise sur comment faire les campagnes. Parce que cette année, nous ne voyons pas les militants avec les t-shirts et puis on ne voit pas les cascadeurs aussi des motos. Ça ne crée pas d'embouteillage aussi pour la population. La population circule bien parce que même hier, j'ai assisté à un lancement de campagne. On voyait dans la circulation les militants des partis politiques qui faisaient leur campagne. Ils étaient juste dans une voiture.
Le scrutin du 20 novembre prochain sera difficile. Parce que plusieurs jeunes et femmes qui d'habitude mobilisent pour les leaders politiques dans leurs différentes communes sont aussi dans la course. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Bénin, on s'interroge sur les risques inhérents aux avancées technologiques que connaît le pays, à l'instar des autres nations du continent. Il y a en particulier l'usage que font certains jeunes des réseaux sociaux à des fins inavouées, pour citer notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Il semble bien loin le temps où les réseaux sociaux pouvaient aider à consolider les liens et à forger le caractère, l'intelligence, la culture. Aujourd'hui au Bénin, une génération de jeunes internautes excelle dans l'art de tromper, manipuler, salir, escroquer, déformer la vérité et surtout faire des affirmations gratuites, qu'importe les conséquences.
Une bonne chose puisque ça vous donne une ouverture sur l'extérieur, le monde, le tiers du monde. Vous pouvez être au Bénin, savoir ce qui se passe en Taïwan, un peu partout. Mais l'autre côté, c'est pour tromper la vigilance. Je crois que c'est mauvais, c'est pas bien.
J'utilise ça souvent pour discuter avec les amis et aussi pour avoir des informations, parce que souvent sur certaines pages Facebook ou Twitter, il y a des informations qui passent, ou bien pour lire des articles sur certaines personnes et tout. Je profite aussi des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer sur mon entreprise, parce que bon, j'ai une petite entreprise, donc je vends des produits, donc je publie les photos des produits et tout sur les réseaux sociaux.
Beaucoup, c'est toujours des selfies, c'est toujours des positions. On va même prendre des photos dans les douches pour montrer ça sur Facebook ou bien sur WhatsApp et on demande de commenter. Mais quand tu mets un sujet sensé, tu parles peut-être du VIH-SIDA, tu parles peut-être d'un sujet d'actualité qui est dans leur pays, des situations qui se passent dans le pays et que tu demandes leur avis, beaucoup ne commentent pas. Seules quelques rares personnes commentent et donnent leur avis. Je trouve ça un peu déplorable.
Pendant que certains désapprouvent la folie de la chose, d'autres pensent que les revers ne devraient pas empêcher de voir le bon côté des réseaux sociaux.
C'est difficile de contrôler, d'exercer du contrôle là-dessus. Le discours, il est libre, il est même très, très libre. Donc voilà, cela ne va pas sans conséquences. Mais voilà, il faut faire confiance aussi aux jeunes. Et puis, l'avantage du net, c'est qu'on n'est pas obligé de s'infliger un reportage qui ne nous intéresse pas. Si quelque chose ne nous intéresse pas, on peut zapper.
Je crois que les réseaux sociaux, autant ils apportent quelque chose de bien, mais l'usage que les jeunes en font, vous allez voir aujourd'hui des jeunes en train de se faire l'amour, à se filmer, à se mettre sur les réseaux sociaux, vous allez voir aujourd'hui des choses impossibles, les gens ne s'arrêtent plus et je pense, je ne sais pas où ça nous mène. Je me demande, je n'ai rien contre les réseaux sociaux, mais j'ai peur.
Il est important que le gouvernement puisse penser à réglementer le secteur, à battre un tant soit peu la porte qui semble être ouverte sur des dérives, aux conséquences bien fâcheuses. Modernité technologique, oui, mais y ajouter un brin de conscience et de vertu paraît bien judicieux. De Cotonou, Ginette Le Adondé pour VOA Afrique.
La France a commémoré hier le premier anniversaire des attaques djihadistes du 13 novembre 2015 qui ont tué 130 personnes et blessé au moins 400 autres. Chérubin Dorcier l'a joint Oumed Daoud près de Paris. Ce Français d'origine djiboutienne souligne l'unité qui a marqué la journée ainsi que le climat de peur régnant en certains endroits dans l'Hexagone.
À Paris, comme en province, 65 millions de Français ont été invités à allumer une bougie. Un rassemblement a eu lieu à la place de la République à Paris. Le président de la République, François Hollande, a dévoilé des plaques commémoratives sur lesquelles ont été gravés les noms de toutes les victimes. Une pensée collective de tous les Français à l'endroit des victimes, bien entendu aussi à l'endroit des familles de victimes. La France est plus que jamais unie face au terrorisme, mais je tiens à rappeler également que l'ensemble de la classe politique française a tenu à éviter toute récupération politique compte tenu du fait que nous soyons en période préélectorale ici en France. Aucune tentative de récupération de la classe politique, la preuve que le président de la République s'est contenté d'inaugurer les plaques commémoratives et de tenir un discours très sobre, très axé sur la dignité et puis le respect, a tenu à rendre hommage aux victimes des attentats des six endroits de la capitale française.
En gros, comment voyez-vous le climat sécuritaire? Comment vit-on en France aujourd'hui?
Le climat sécuritaire en France, quand on est de confession musulmane ou aussi quand on est basané, bien sûr, la peur est toujours là, la peur de l'amalgame. L'amalgame peut être fait par des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Est-ce qu'on est fiché S ou pas? Bon, les gens, honnêtement, se posent des questions, même s'ils n'ont absolument rien à se reprocher. Tout le monde n'est pas terroriste. Mais en tous les cas, ces tristes événements ont perturbé le quotidien des communautés musulmanes. Ce sont des honnêtes citoyens français. Je rappelle que l'islam est la deuxième religion de France.
Malgré cette inquiétude dont vous faites mention, Monsieur Daoud, on a senti quand même en France un élan d'unité lors de la commémoration d'hier.
Absolument. La commémoration de la journée d'hier, le 13 novembre 2016, a été placée sous le signe de l'unité nationale, de la cohésion. L'ensemble des confessions religieuses, l'ensemble des Français d'abord, toutes confessions religieuses confondues, se sont sentis, ont été unis face au terrorisme, face à la barbarie qui a fauché la vie de 130 personnes et qui a brisé évidemment la vie des familles des victimes. Donc la France a été solidaire et a montré l'exemple au monde entier que la France est debout.
Oumed Daoud, un Français d'origine djiboutienne. Ici aux États-Unis, la transition politique passe à une vitesse supérieure avec la nomination de deux responsables clés de la future administration. En effet, hier dimanche, le président élu Donald Trump a sélectionné Ryan Priebus, ancien patron du Parti républicain, et un proche conseiller Steve Bannon du réseau de nouvelles en ligne Breitbart, respectivement comme secrétaire général de la Maison-Blanche et stratège en chef de sa présidence. Pour une analyse de cette transition, Gaby Dorsil a joint le professeur de sciences politiques Franz-Antoine Lecomte à New York.
Nous avons eu un candidat d'une très grande agressivité et je crois que maintenant, avec parvenu à la présidence, je crois qu'il doit y avoir un changement et je crois que c'est un monsieur qui paraît s'assagir un peu plus chaque jour. C'est un monsieur qui est disposé à recevoir les conseils de tout un chacun. Donc, ce Trump, qui était d'un extrémisme tout à fait certain, moi, je crois qu'il tend à devenir un peu plus modéré. Et d'ailleurs, il y a un nouveau comportement lorsqu'il a été à la Maison-Blanche, serré la main du président, quelqu'un qu'il a vertement critiqué pendant, près de 2 ans, durant toutes les élections primaires, durant les élections, durant les débats, etc., etc. Quelqu'un qu'il a accusé, de tous les péchés du monde.
Pourtant, M. Lecomte, Donald Trump semble être revenu un peu à la ligne dure de la campagne en annonçant ce dimanche, qu'il était prêt à expulser jusqu'à 3 millions d'immigrants illégaux, mais surtout des criminels, des gens qui ont des problèmes avec la justice, tout ça.
Bon, déjà, c'était une façon, si vous voulez, de mettre une petite sourdine à cette politique, la véhémente, si vous voulez, qu'il avait annoncée. Par exemple, on va expulser des immigrants, mais ce sont des criminels. Alors, vous vous rappelez, la déclaration précédente a été, nous allons expulser près de 11 millions, c'est-à-dire maintenant qu'il va prêter serment, et maintenant qu'il est au courant, si vous voulez, de la réalité, alors là, il ne va pas répéter, si vous voulez, les mêmes bêtises.
Et parlons de la loi phare du gouvernement Obama, communément appelée Obamacare. Il semble que là aussi, Donald Trump se soit ressaisi un peu.
On sait que ces jours-ci, qu'il reconnaît cette certaine valeur, si vous voulez, de cette couverture de santé Obamacare, eh bien, Donald Trump ne va pas être tout à fait extrême. Il est président, il se rend à l'évidence de la difficulté des choses. Il va jouer au modéré, il n'ira plus à l'extrême.
Pas de lune de miel pour Donald Trump quand on voit toutes ces manifestations qui se déroulent à travers le pays.
Pas de lune de miel pour Donald Trump, c'est parce que justement il y a eu des déclarations trop extrêmes. Et puis il y a quand même une partie de l'électorat qui est encore tout à fait déçue, désabusée. Alors on va le combattre, mais je crois que ça va dépendre d'abord de sa politique.
Franz-Antoine Lecomte, politologue et professeur à Kingsborough College à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.